Chapitre 2 In Memoriam. Harry saignait. Se tenant la main droite avec la gauche, jurant à mi-voix, il ouvrit la porte de sa chambre d'un coup d'épaule et entendit un bruit de porcelaine brisée. Il venait de marcher sur une tasse de thé froid posée sur le sol à l'entrée de sa chambre. Qu'est-ce que... Il regarda autour de lui. Le palier du 4 Private Drive était désert. Peut-être la tasse de thé avait-elle été placée là par Dudley qui pensait que ce serait un bon piège. Tenant levée sa main qui saignait, Harry ramassa de son autre main les débris de porcelaine et les jeta dans la corbeille déjà pleine, tout juste visible derrière la porte de sa chambre. Puis, il se précipita dans la salle de bain pour passer son doigt sous l'eau. Il était stupide, injustifié, extraordinairement agaçant, qu'ils doivent encore attendre 4 jours avant d'avoir le droit de faire usage de magie. Mais de toute façon, il devait bien admettre que cette entaille aurait résisté à ses talents de sorcier. Il n'avait jamais appris à soigner les blessures et maintenant qu'il y pensait, surtout compte tenu de ses projets immédiats, il lui sembla qu'il s'agissait d'une grave lacune dans son éducation magique. En se promettant de demander à Hermione comment s'y prendre, il se servit d'une longue bande de papier hygiénique pour éponger du mieux qu'il put le thé répandu par terre avant de retourner dans sa chambre en claquant la porte derrière lui. Harry avait passé la matinée à vider entièrement sa grosse valise pour la première fois depuis qu'il l'avait remplie 6 ans auparavant. Au début de chaque année scolaire, il s'était contenté d'enlever aux 3/4 la partie supérieure de son contenu qu'il remplaçait ou adaptait en fonction des besoins, laissant au fond une couche de débris divers, vieilles plumes, yeux de scarabée desséchés, chaussettes solitaires devenues trop petites. Quelques minutes plus tôt, il avait plongé le bras dans ce fouillis et avait ressenti une douleur fulgurante à l'annulaire droit. Quand il avait retiré sa main, son doigt ruisselait de sang. Il procéda alors avec un peu plus de prudence. S'agenouillant à nouveau à côté de la grosse valise, il tâtonna dans le fond et, après en avoir extrait un vieux badge dont l'inscription luisait faiblement en passant de « Vive Cédric Diggory » à « Abba Potter », un scrutoscope usé et un médaillon d'or dans lequel se trouvait un message signé « Érabé », il finit par découvrir l'objet tranchant responsable de sa blessure. Il le reconnut aussitôt. C'était un fragment de 5 centimètres de longueur provenant du miroir magique que Sirius, son parrain disparu, lui avait offert. Harry le mit de côté et continua de fouiller précautionneusement au fond de sa valise pour chercher les autres morceaux. Mais il ne restait plus rien du dernier cadeau de son parrain, à part du verre broyé qui s'était collé à la dernière couche de débris comme un gravier scintillant. Harry se redressa et examina le morceau de miroir responsable de sa coupure, mais n'y vit rien d'autre que le reflet de son œil vert et brillant qui lui rendait son regard. Il posa le fragment sur la gazette du sorcier, arrivé le matin même qu'il avait laissé sur le lit sans l'avoir lu. Essayant de refouler la vague soudaine de souvenirs douloureux, les regrets et la nostalgie que la découverte du miroir brisé avait fait naître, il s'attaqua au reste du bric-à-brac amassé dans la valise. Il lui fallut 1 heure de plus pour la vider entièrement, jeter les objets inutiles et trier les autres en piles séparées, selon qu'il en aurait ou non besoin désormais. Les robes de Quidditch et celles qu'il portait à l'école, son chaudron, ses parchemins, ses plumes, et la plupart de ses livres de classe furent entassés dans un coin où il comptait les abandonner. Il se demandait ce que son oncle et sa tante pourraient bien en faire. Sans doute les brûler en pleine nuit, comme les traces d'un crime effroyable. Ses vêtements de moldu, sa cape d'invisibilité, son nécessaire à potion, certains livres, l'album de photos que Hagrid lui avait un jour donné, une liasse de lettres et sa baguette magique étaient à présent rangés dans un vieux sac à dos. La carte du maraudeur et le médaillon contenant le mot signé R.A.B. se trouvaient dans sa poche de poitrine. Cette place d'honneur avait été accordée au médaillon non en raison de sa valeur, dans tous les sens du terme, il n'en possédait aucune, mais à cause du prix qu'il avait fallu payer pour le découvrir. Il n'y avait plus qu'une pile de journaux posés sur son bureau, à côté d'Edwige, sa chouette des neiges. Un pour chaque jour que Harry avait passé à Private Drive au cours de cet été. Toujours assis par terre, il se releva, s'étira et s'avança vers son bureau. Edwige ne bougea pas tandis qu'il feuilletait les journaux, les jetant un à un sur la pile de détritus. La chouette dormait ou faisait semblant. Elle était en colère contre Harry, qui ne la laissait pas sortir de sa cage assez souvent à son goût. À mesure qu'il approchait des derniers journaux de la pile, Harry prit son temps. Il cherchait en particulier un numéro arrivé peu après son retour à Private Drive au début de l'été. Il se souvenait d'avoir lu en première page une brève annonce de la démission de Charity Burbage, le professeur d'études des Moldus à Poudlard. Il trouva enfin le journal. L'ouvrant à la page 10, il s'enfonça dans le fauteuil de son bureau et relut l'article qui l'intéressait. « En souvenir d'Albus Dumbledore » par Elphias Dodge. « J'ai rencontré Albus Dumbledore à l'âge de 11 ans, lors de notre premier jour à Poudlard. La sympathie que nous avons éprouvée l'un pour l'autre était due, sans nul doute, au fait que nous nous sentions tous deux des marginaux. J'avais contracté la dragoncelle peu avant mon arrivée à l'école, et bien que je ne fusse plus contagieux, mon teint verdâtre et mon visage grêlé n'incitaient guère à s'approcher de moi. À son arrivée à Poudlard, Albus portait pour sa part le fardeau d'une notoriété dont il se serait bien passé. À peine un an plus tôt, Perceval, son père, avait été condamné pour avoir attaqué 3 jeunes moldus d'une manière particulièrement sauvage, une affaire qui avait largement défrayé la chronique. Albus n'a jamais essayé de nier que son père, qui devait mourir à Azkaban, avait bel et bien commis ce crime. Au contraire, lorsque j'ai trouvé le courage de lui poser la question, il m'a assuré qu'il savait son père coupable. Dumbledore refusait de parler davantage de cette triste affaire, bien que beaucoup aient tenté de lui en faire dire plus. En vérité, certains auraient volontiers félicité son père d'avoir commis cette action et présumaient qu'Albus, lui aussi, haïssait les Moldus. Il n'aurait pu commettre plus grande erreur. Comme tous ceux qui ont connu Albus peuvent en témoigner. Il n'a jamais manifesté la moindre tendance anti-Moldu. Mieux, son soutien sans faille aux droits des Moldus lui a valu de nombreuses inimitiés au cours des années. En quelques mois cependant, la propre renommée d'Albus éclipsa celle de son père. Au terme de sa première année à Poudlard, il n'était plus connu comme le fils d'un ennemi des Moldus, mais comme rien de moins ou de plus que le plus brillant élève qu'on eût jamais vu dans cette école. Ceux d'entre nous qui avaient le privilège de compter parmi ses amis bénéficiaient de son exemple, sans parler de l'aide et des encouragements qu'il nous prodiguait toujours avec générosité. Plus tard, il me confia que, dès cette époque, il avait su que son plus grand plaisir serait d'enseigner. Non seulement il remporta tous les prix importants que décernait l'école, mais il entretint bientôt une correspondance régulière avec les personnalités magiques les plus remarquables de son temps, notamment Nicolas Flamel, le célèbre alchimiste, Bathilda Tour-de-Sac, l'historienne bien connue, et Adalbert Lasornette, le théoricien de la magie. Plusieurs de ses essais trouvèrent place dans des publications savantes telles que « Le mensuel de la métamorphose »,« Les défis de l'enchantement » et « Pratique de la potion ». La future carrière de Dumbledore semblait promise à une ascension météorique et la seule question qui demeurait était de savoir à quel moment il deviendrait ministre de la magie. Bien que, par la suite, il ait été sur le point d'accepter la fonction, il n'eut jamais d'ambition ministérielle. 3 ans après nos débuts à Poudlard, Abelfort, le frère d'Albus, arriva à son tour à l'école. Ils ne se ressemblaient pas,
Abelfort n'était pas très attiré par les livres, et il préférait régler les disputes en recourant aux duels plutôt qu'à des arguments raisonnés. Il est totalement faux, cependant, de suggérer, comme certains l'ont fait, que les deux frères ne s'entendaient pas. Leur relation était aussi chaleureuse que possible entre deux garçons de caractère aussi différents. Pour être juste envers Abelfort, il faut admettre que vivre dans l'ombre d'Albus n'était pas une situation confortable. Se voir sans cesse surpassé constituait un risque inévitable lorsqu'on voulait être son ami, et il ne pouvait en être autrement pour un frère. Quand Albus et moi avons quitté Poudlard, nous avions l'intention d'entreprendre ensemble un tour du monde, ce qui était alors traditionnel, pour rencontrer des sorciers étrangers et observer leurs pratiques, avant de suivre chacun de notre côté nos carrières respectives. Malheureusement, la tragédie s'en est mêlée. La veille même de notre voyage, Kendra, la mère de Dumbledore, mourait, laissant à son fils, Albus, le rôle de chef de famille, seul capable de subvenir à ses besoins. Et j'ai retardé mon départ afin de rendre un dernier hommage à Kendra le jour de ses funérailles. Puis je suis parti accomplir ce qui deviendrait désormais un voyage solitaire. Avec à sa charge un frère et une sœur plus jeunes et peu de ressources à sa disposition, il ne pouvait être question qu'Albus m'accompagne. Et ce fut la période de notre vie où nous eûmes le moins de contact. J'écrivais à Albus en lui racontant, avec peut-être un certain manque de sensibilité à son égard, les merveilles de mon voyage, depuis la Grèce où j'avais échappé de peu aux chimères jusqu'à l'Égypte, où j'avais assisté à des expériences d'alchimie. Dans ses lettres, il me disait peu de choses de sa vie quotidienne, dont je devinais qu'elle devait être d'une banalité désolante pour un sorcier aussi brillant. Plongé dans mes propres aventures, j'appris avec horreur que, vers la fin de mon année de voyage, une autre tragédie avait encore frappé les Dumbledore, la mort de sa sœur Ariana. Bien que, depuis longtemps, Ariana eût été de santé délicate, ce nouveau coup venant si tôt après la perte de leur mère eut un effet profond sur les deux frères. Tous ceux qui étaient le plus proches de lui, et je me flattais d'en faire partie, s'accordaient à penser que la mort d'Ariana et le sentiment de responsabilité personnelle qu'en éprouvait Albus, même si bien entendu il était exempt de toute culpabilité, l'avait marqué à jamais. À mon retour, j'ai trouvé un jeune homme qui avait subi des souffrances que connaissent ordinairement des personnes beaucoup plus âgées. Albus était plus réservé qu'avant, beaucoup moins insouciant. Pour ajouter à son malheur, la disparition d'Ariana, loin de rapprocher Albus et Abelfort, les avait éloignés l'un de l'autre. Cette brouille devait prendre fin avec le temps. Des années plus tard, ils rétablirent des relations qui, sans être intimes, étaient sans nul doute cordiales. À côté de cette époque, il parla rarement de ses parents ou d'Ariana, et ses amis avaient appris à ne pas prononcer leur nom devant lui. D'autres plumes que la mienne se chargeront de relater ses triomphes ultérieurs. Les innombrables contributions de Dumbledore à la connaissance de la magie, notamment sa découverte des 12 usages du sang de dragon, bénéficieront aux générations futures, tout comme la sagesse dont il sut faire preuve pendant le temps où il assuma les fonctions de président sorcier du Maguen Maggot. On entendit aujourd'hui encore que jamais duel de sorcier ne fut comparable à celui que se livrèrent Dumbledore et Grindelwald en 1945. Ceux qui en furent les témoins ont décrit la terreur, l'admiration mêlée d'effroi qu'ils ressentirent en voyant s'affronter ces deux mages extraordinaires. Le triomphe de Dumbledore et ses conséquences sur le monde de la sorcellerie sont généralement considérés dans l'histoire de la magie comme un tournant aussi important que l'adoption du Code international du secret magique ou la chute de celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Albus Dumbledore ne fut jamais orgueilleux ni vaniteux. et il trouvait toujours quelque chose de précieux en chacun, si insignifiant ou indigne qu'il fût. Et je suis convaincu que ces deuils précoces ont développé en lui une très grande humanité et une exceptionnelle compassion. Son amitié me manquera plus que je ne saurais le dire, mais la perte qui est la mienne n'est rien comparée à celle que subit le monde de la magie. Parmi tous les directeurs de Poudlard, on ne peut douter qu'il a été le plus stimulant et le plus aimé. Il est mort comme il a vécu, en œuvrant pour le plus grand bien et toujours disposé, jusqu'à sa dernière heure, autant que le jour où je l'ai rencontré, à tendre la main à un petit garçon affligé de dragoncelle.
Lorsqu'il eut terminé sa lecture, Harry s'attarda sur l'image qui accompagnait la nécrologie. Dumbledore arborait son habituel sourire bienveillant, mais même sur une photo de journal, son regard, par-dessus ses lunettes en demi-lune, donnait à Harry l'impression qu'il le passait au rayon X. Sa tristesse se mêla d'un sentiment d'humiliation. Il pensait connaître bien Dumbledore, mais après avoir lu l'article, il était forcé d'admettre qu'il le connaissait à peine. Jamais il n'avait songé à ce qu'avait pu être son enfance ou sa jeunesse. C'était comme s'il était soudain né à la vie telle qu'il l'avait toujours vue, âgé, vénérable, les cheveux argentés. L'idée d'un Dumbledore adolescent lui paraissait une bizarrerie, comme imaginer une Hermione stupide ou un Scroot à pétard affectueux. Il ne lui était jamais venu à l'esprit d'interroger Dumbledore sur son passé. Cela eût paru étrange, sans nul doute, impertinent même, mais après tout, il était de notoriété publique que Dumbledore avait pris part au duel légendaire contre Grindelwald. Harry pourtant n'avait pas pensé à lui demander d'en parler, ni d'ailleurs d'évoquer aucun des autres exploits célèbres qu'il avait accomplis. Leur conversation portait seulement sur Harry. Le passé de Harry, l'avenir de Harry, les projets de Harry, et quels que soient les dangers et les incertitudes qui pesaient sur cet avenir, Harry sentait à présent qu'il avait manqué des occasions uniques de demander à Dumbledore d'en dire plus à son sujet. Même si, à la seule question personnelle qu'il lui eût jamais posée, le directeur de Poudlard avait apporté une réponse dont la sincérité lui semblait douteuse. « Et vous ? Qu'est-ce que vous voyez quand vous regardez le miroir ?»«
Moi, je me vois avec une bonne paire de chaussettes de laine à la main. »
Après quelques minutes de réflexion, Harry découpa l'article de la Gazette, le plia soigneusement et le rangea à l'intérieur du premier tome de la défense magique appliquée et son usage contre les forces du mal. Puis il jeta le reste du journal sur la pile de détritus et se tourna vers le centre de la pièce. Elle était beaucoup mieux ordonnée à présent. Il ne restait plus qu'à ranger la Gazette du jour posée sur le lit et le morceau de miroir brisé. Harry traversa la chambre, ôta de la Gazette le fragment de miroir et déplia le quotidien. Le matin même, un hibou lui avait apporté le journal qu'il avait jeté sur le lit après avoir accordé un simple coup d'œil à la manchette pour vérifier qu'on ne parlait pas de Voldemort. Harry était persuadé que le ministère faisait pression sur la Gazette pour occulter toute nouvelle concernant le Seigneur des Ténèbres. Ce fut donc en cet instant seulement qu'il vit ce qui lui avait échappé. En bas de page figurait un titre plus petit que la manchette, au-dessus d'une photo représentant Dumbledore marchant à grands pas d'un air tourmenté. « Dumbledore, enfin !» La vérité. À ne pas manquer, la semaine prochaine, l'histoire scandaleuse d'un génie imparfait que beaucoup considèrent comme le plus grand sorcier de sa génération, brisant l'image largement répandue du vieux sage à la barbe argentée et au visage serein, Rita Skeeter révèle l'enfance perturbée, la jeunesse sans foi ni loi, les querelles sans fin et les coupables secrets que Dumbledore a emportés dans la tombe. Pourquoi l'homme à qui on prédisait un avenir de ministre s'est-il contenté de rester simple directeur d'école? Quel était le véritable objectif de l'organisation secrète connue sous le nom de l'Ordre du Phénix? Comment Dumbledore est-il vraiment mort? Les réponses à ces questions et à bien d'autres sont largement examinées dans une nouvelle biographie explosive. « Vie et mensonges d'Albus Dumbledore » par Rita Skeeter. Lire en page 13 l'interview exclusive accordée à Betty Braithwaite. Harry ouvrit le journal d'un geste brutal qui faillit déchirer le papier et trouva la page 13. Au-dessus de l'article, une photo montrait un autre visage familier, celui d'une femme aux lunettes incrustées de pierreries, avec des cheveux blonds soigneusement bouclés, les dents découvertes en un sourire qu'elle voulait triomphant, et de longs doigts qui ondulaient vers lui. S'efforçant de son mieux de ne pas prêter attention à cette image nauséabonde, Harry lut l'interview.
Lorsqu'on la voit, Rita Skeeter paraît beaucoup plus douce et chaleureuse que ne le laisserait supposer la férocité de ses célèbres portraits. Après m'avoir accueilli dans le hall de sa coquette demeure, elle m'emmène droit dans la cuisine pour m'offrir une tasse de thé, une tranche de 4 quarts et une fournée encore brûlante de ses derniers potins.
« Bien sûr, » dit-elle, « Dumbledore est un sujet en or pour un biographe. Une vie si longue, si bien remplie. » Je suis sûr que mon livre ne sera que le premier d'une longue, longue série. »
Sans nul doute, Skeeter n'a pas perdu de temps. Son livre de 900 pages a été achevé 4 semaines seulement après la mort mystérieuse de Dumbledore. Au mois de juin dernier, je lui demande comment a-t-elle pu réaliser cet exploit avec une telle rapidité.
Oh! Lorsqu'on a été journaliste aussi longtemps que moi, travailler dans des délais impossibles devient une seconde nature. Je savais que le monde de la sorcellerie réclamait à grands cris un récit détaillé de toute cette histoire, et je voulais être la première à répondre à cette exigence.
Je mentionne alors les récents commentaires largement diffusés d'Elphias Dodge, conseiller spécial auprès du Mag & Maggot et ami de longue date d'Albus Dumbledore, selon lesquels le livre de Skeeter contient moins de faits réels qu'une carte de choco-grenouille. Skeeter rejette la tête en arrière et éclate de rire.
Ce vieux Dodgy, je me souviens de l'avoir interviewé il y a quelques années à propos des droits des êtres de l'eau. Le cher homme, oh, complètement gâteux. Il semblait penser que nous étions assis au fond du lac Wendermeer et me répétait sans cesse de faire attention aux truites.
Pourtant, les accusations d'inexactitude lancées par Elphias Dodge ont rencontré de nombreux échos. Skeeter pense-t-elle vraiment que 4 petites semaines soient suffisantes pour obtenir une vue complète d'une existence aussi longue et exceptionnelle que celle de Dumbledore?
Ma chère amie, répond Skeeter, rayonnante, en me tapotant affectueusement la main. Vous savez aussi bien que moi combien on peut rassembler d'informations grâce à un gros sac de galion, un refus systématique de s'entendre dire non et une bonne plume à papote bien aiguisée. D'ailleurs, les gens faisaient la queue pour traîner Dumbledore dans la boue. Vous savez, tout le monde ne le trouvait pas si merveilleux que ça. Il a marché sur les pieds d'un bon nombre de gens importants. Oh, mais ce vieux Dodgy Dodge ne devrait pas monter sur ses grands hippogriffes, car j'ai eu accès à une source pour laquelle la plupart des journalistes seraient prêts à donner leur baguette. Oui, quelqu'un qui n'a jamais parlé publiquement jusqu'à maintenant et qui était proche de Dumbledore au cours de la période la plus agitée et la plus troublante de sa jeunesse.
À en croire le battage suscité par la sortie prochaine de la biographie de Skeeter, ceux qui pensent que Dumbledore a mené une vie sans tâche doivent s'attendre à subir un choc. Je lui demande quelles sont les plus grandes surprises qu'elle lui révèle.
Allô, Betty,
répond-elle dans un grand éclat de rire.
Je ne vais pas dévoiler les moments forts du livre avant même que quiconque l'ait acheté. Mais je peux vous promettre que tous ceux qui sont encore convaincus que Dumbledore était aussi blanc que sa barbe font connaître un réveil douloureux. Disons simplement que quand on l'entendait tempêter contre vous savez qui, personne n'aurait pu songer un instant qu'il a lui-même flirté avec les forces du mal dans sa jeunesse. Et pour un sorcier qui a passé les dernières années de sa vie à plaider en faveur de la tolérance, on ne peut pas dire qu'il ait manifesté la même largeur d'esprit lorsqu'il était plus jeune, non, oui, ah oui. Oui, le passé d'Albus Dumbledore est extrêmement ténébreux. Sans parler de sa famille singulièrement douteuse, et qu'il s'est tant efforcé de passer sous silence.
Je demande si Skeeter veut parler d'Abelfort, le frère de Dumbledore, dont la condamnation par le Maguen Maggot pour usage illicite de la magie a causé un petit scandale il y a une quinzaine d'années. Oh, Abelfort n'est que la partie visible du tas de bouse. Et s'esclave Skeeter. Non, je parle de choses bien pires qu'un frère qui aime bien jouer avec les chèvres. Et pire encore qu'un père qui mutile des moldus. De toute façon, Dumbledore ne pouvait les cacher. Ils ont été poursuivis tous les deux par le Maguen Maggot. Non, 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 ce sont la mère et la sœur qui m'intriguent. Et en creusant un peu, j'ai découvert un véritable nid de saleté. Mais comme je l'ai dit, vous devrez attendre d'avoir lu les chapitres 9 et 12 de mon livre pour connaître tous les détails. La seule chose que je puisse affirmer pour le moment, c'est qu'on ne saurait s'étonner que Dumbledore n'ait jamais parlé de la raison pour laquelle il avait le nez cassé. En dehors des squelettes dans les placards de la famille, Skeeter nie-t-elle l'intelligence brillante qui a conduit Dumbledore à faire ses nombreuses découvertes dans le domaine de la magie? Il était intelligent. C'est vrai. Admet-elle? Bien qu'aujourd'hui beaucoup se demandent si on peut lui reconnaître l'entière paternité de ses réussites supposées. Comme je le révèle dans le chapitre 16, Ivor Dillonsby prétend qu'il avait déjà découvert 8 usages du sang de dragon lorsque Dumbledore lui a emprunté ses papiers. Je me risque cependant à faire remarquer que certains exploits accomplis par Dumbledore demeurent incontestables, notamment sa fameuse victoire sur Grindelwald. Oh, je suis contente que vous parliez de Grindelwald. Répond Skeeter avec un sourire qui donne envie d'en savoir plus. J'ai bien peur que ceux dont le regard s'embue dès qu'on évoque le triomphe spectaculaire de Dumbledore doivent se préparer à une véritable bombe, et même une bombe à bouse. Il s'agit d'une très, très vilaine affaire en vérité. Tout ce que je vous dirai, c'est qu'on ne peut pas être si sûr que ce duel de légende a vraiment eu lieu. Après avoir lu mon livre, les gens seront peut-être forcés de conclure que Grindelwald a simplement fait surgir un mouchoir blanc au bout de sa baguette et s'est rendu sans résistance. Est-ce qu'il te refuse d'ajouter quoi que ce soit sur cette question très intrigante? Et nous évoquons alors une relation bien particulière qui fascinera certainement ses lecteurs plus que tout autre. Ah oui. Répond Skeeter en hochant vivement la tête. Je consacre un chapitre entier à cette histoire entre Potter et Dumbledore. On a dit que le lien qui s'est établi entre eux avait quelque chose de malsain, et même de sinistre. Encore une fois, vos lecteurs devront acheter mon livre pour connaître tous les détails, mais il ne fait aucun doute que Dumbledore a manifesté depuis le début un intérêt anormal pour Potter. Était-ce vraiment la meilleure manière d'aider ce garçon? Nous verrons bien. Le fait que Potter ait eu une adolescence des plus troublées n'est évidemment pas un secret. Je demande à Rita Skeeter si elle est restée en contact avec Harry Potter, dont elle a publié une si célèbre interview l'année dernière. Un entretien capital dans lequel Potter exposait en exclusivité sa conviction que vous savez qui était revenu.
Oh oui, oui, nous sommes devenus très proches.
Répond-elle?
Le malheureux Potter n'a pas beaucoup de vrais amis, et nous nous sommes rencontrés à l'un des moments les plus déterminants de sa vie, le tournoi des trois sorciers. Ah, je suis sans doute l'une des rares personnes vivantes qui puisse affirmer qu'elle connaît le véritable Potter.
Ce qui nous amène, tout naturellement, à parler des rumeurs qui circulent à propos des dernières heures de Dumbledore. Skeeter, croit-elle que Potter était là lorsque Dumbledore est mort?
Je ne peux pas en dire trop. Tout est dans le livre. Mais des témoins oculaires à l'intérieur de Poudlard ont vu Potter fuir le lieu du drame quelques instants après que Dumbledore fût tombé, eût sauté ou eût été poussé dans le vide. Par la suite,
Potter a accusé Severus Rogue, un homme contre lequel il nourrit une rancune bien connue. Hein? Ah, les choses se sont-elles passées telles qu'elles apparaissent? Il appartient à la communauté des sorciers d'en décider, une fois qu'ils auront lu mon livre. C'est sur cette mystérieuse conclusion que je prends congé. Le livre de Rita Skeeter est destiné sans nul doute à devenir un best-seller immédiat. En tout cas, les légions d'admirateurs de Dumbledore ont toutes les raisons de trembler en attendant les révélations qui seront bientôt faites sur la vie de leur héros.
Harry était arrivé au bout de l'article, mais il continua de fixer la page d'un regard vide. Le dégoût et la fureur montaient en lui comme un flot de vomissure. Il chiffonna le journal et jeta de toutes ses forces contre le mur la boule de papier qui retomba sur le tas de débris amassé autour de sa corbeille débordante. Il se mit à faire machinalement les 100 pas autour de la pièce, ouvrant des tiroirs vides, prenant des livres qu'il se contentait de reposer sur la même pile, à peine conscient de ses gestes, tandis que des fragments de l'interview de Rita Skeeter résonnaient dans sa tête.
Un chapitre entier à cette histoire entre Potter et Dumbledore. On a dit que le lien qui s'est établi entre eux avait quelque chose de malsain et même de sinistre. Il a lui-même flirté avec les forces du mal dans sa jeunesse. J'ai eu accès à une source pour laquelle la plupart des journalistes seraient prêts à donner leur baguette.
Oh. « Des mensonges !» hurla Harry. Par la fenêtre, il vit le voisin d'à côté qui s'était arrêté pour remettre en route sa tondeuse à gazon. Levait les yeux d'un air inquiet. Harry se laissa tomber brutalement sur le lit. Le morceau du miroir brisé fut projeté un peu plus loin. Il le prit et le fit tourner entre ses doigts en pensant à Dumbledore et aux mensonges avec lesquels Rita Skeeter salissait sa mémoire. Il y eut alors un éclair d'un bleu étincelant. Harry se figea, son doigt blessé glissant à nouveau sur le bord brisé du miroir. C'était sans doute l'effet de son imagination. Oui, sûrement. Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, mais le mur avait toujours la même couleur, pêche écœurante, que la tante Pétunia avait choisie. Il n'y avait rien de bleu qui ait pu se refléter dans le miroir. Il scruta à nouveau le fragment qu'il tenait à la main. Il n'y vit rien d'autre que son œil vert et brillant qui le regardait. Son imagination l'avait trompé. Il ne voyait pas d'autre explication possible. Il avait imaginé cet éclair bleu parce qu'il pensait à la mort de son directeur d'école. La seule chose certaine, c'était que les yeux bleus vifs d'Albus Dumbledore ne poseraient plus jamais sur lui leur regard perçant.